RCF.
Quelle est la place de l'homme, tout à la fois être vivant et animal doué de raison dans le monde ? Comprendre notre humanité, c'est comprendre tout ce qui a abouti à l'homme, c'est-à-dire l'ensemble de la création. La philosophie antique et médiévale a accompli l'effort patient et exigeant de sonder la légitimité de l'existence humaine à partir de ce qui le fait être l'homme et ce qui le dépasse, la transcendance qui appelle tout être humain à être. Ce que nous nommons assez mystérieusement la providence, c'est ce qui équipe chaque chose, chaque être vivant, chaque enfant, chaque homme, chaque femme, à pour être ce qu'il ou ce qu'elle doit être. Comment penser la présence du bien ou l'action de Dieu dans le monde ? Quels en sont les enjeux ? Ces questions, nous les abordons aujourd'hui dans notre entretien avec Rémy Brague, philosophe, professeur émérite de philosophie médiévale à la Sorbonne, membre de l'Institut, auteur de nombreux ouvrages qui articulent une culture érudite, savante, à une réflexion fondamentale sur l'homme, sur sa nature, son histoire, son devenir dans la modernité, une réflexion nourrie de la tradition catholique, des pères de l'Église à la théologie du XXe siècle. Bonjour Rémy Brague.
Bonjour et merci.
Vous êtes lauréat du Grand Prix catholique de littérature 2024 pour votre livre « À chacun ses besoins », petit traité d'économie divine paru aux éditions Flammarion en 2023 et pour l'ensemble de votre œuvre. J'aimerais que nous évoquions tout d'abord rapidement votre cheminement philosophique. En revenant un petit peu aux sources, votre thèse de doctorat a porté sur Aristote et la question du monde. Pourquoi un jeune philosophe comme vous, lorsque vous aviez commencé ce travail, a choisi Aristote ? Un jeune philosophe catholique a choisi ce point de départ ?
Oh, je crois que tout philosophe, même non catholique, aurait pu faire le même raisonnement que celui qui fut le mien, à savoir essayer de commencer par le commencement. Vous avez parlé de ma thèse d'État sur Aristote, bon, la grande thèse, comme on dit, ou la grosse thèse, j'en sais rien. Mais j'avais commencé par un travail plus modeste de thèse de troisième cycle. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Enfin, les noms changent tellement rapidement. C'était sur Platon. Donc, j'avais eu envie de commencer vraiment par le commencement. Bon, disons, il y a les présocratiques, bien entendu, mais enfin, c'est pas facile d'y consacrer un travail qui prenne vraiment le côté conceptuel des choses en vue, puisque bon, c'est quand même encore à peine dégagé du mythe, et j'ai préféré m'adresser à Platon puis à Aristote comme les deux grands génies qui suivent finalement ou qui précèdent toute l'histoire de la philosophie occidentale. Whitehead a eu cette phrase bien connue, très souvent citée, trop souvent citée peut-être, enfin bon, tant pis, selon laquelle l'ensemble de la philosophie occidentale serait une série de notes en bas de page des œuvres de Platon. Alors c'est pas tout à fait exact, mais si on ajoute une série de notes au bas des pages de Platon et d'Aristote, alors là, on saisit quelque chose de plus solide, puisque effectivement, la philosophie occidentale s'est déplacée dans le sillage de ces deux grands bonshommes. Alors les étudier, c'était déjà une manière d'être poli envers les grands ancêtres, et puis une manière d'essayer de puiser à des sources pas encore trop frelatées.
Aristote et le commentaire aussi que saint Thomas d'Aquin a proposé d'Aristote, c'est une sorte de fil d'Ariane aussi qui montre la cohérence de votre travail philosophique, d'Aristote et la question du monde jusqu'à « À chacun ses besoins » où vous explorez aussi très précisément cette voie thomiste. Comment cette articulation entre philosophie et théologie ou philosophie et foi s'est-elle opérée en vous ? Est-ce que d'emblée c'est un accord, une certaine harmonie ou est-ce qu'il y a eu une tension ?
D'abord, vous avez raison de rappeler que mon dernier livre, enfin ce petit bouquin là sur « À chacun selon ses besoins » pour lequel j'ai choisi ironiquement d'emprunter un titre à la définition du communisme parfait selon Louis Blanc, si je ne me trompe, et puis Karl Marx, ce petit bouquin pourrait s'appeler en fait « Traité de la Providence selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin ». Bon, il se trouve que les thomistes n'ont pas réussi à me dégoûter de saint Thomas, malgré tous leurs efforts, et j'ai trouvé dans la doctrine de la Providence de saint Thomas, telle qu'il la suppose plus qu'il ne la développe au troisième livre de la Somme dite contre les gentils, enfin contre les païens plus exactement, j'ai trouvé une théorie qui m'a semblé vraiment très astucieuse, si vous voulez. Enfin, ça m'a excité intellectuellement. Et là, je suis déjà en train de répondre d'une certaine manière à votre question sur l'articulation entre foi et théologie, ou foi et philosophie plus exactement. Ce que je veux dire, c'est que chacun a la foi de celui ou celle qu'il ou elle est. La foi du charbonnier, c'est très très bien, tant que l'on est charbonnier. Métier qui est de plus en plus rare sous nos climats. Si en revanche on est plombier ou dentiste, on doit avoir une foi de plombier, une foi de dentiste. Et quand on est philosophe, on essaye d'avoir une foi de philosophe. C'est-à-dire de trouver ce qui dans la foi correspond ou répond, si l'on préfère, à ce que nous sommes, et en l'occurrence quelqu'un qui se déplace dans un univers plutôt conceptuel que sentimental ou je ne sais pas, ou pratique ou politique ou j'ai trouvé que la foi donnait un message particulièrement excitant pour les petites cellules grises. Et donc, tel Hercule Poirot, j'ai essayé d'utiliser mes petites cellules grises pour approfondir ce en quoi je croyais et pour trouver dans l'objet même de ma foi, de quoi, non seulement alimenter, mais justifier l'activité intellectuelle. Le pape Benoît XVI insistait de manière répétitive, presque obsessionnelle, sur les premiers mots du quatrième évangile. Au début, avant la création du monde, il y avait le verbe, le logos, c'est-à-dire à la fois raison, liberté, sens, comme on voudra dire. Et cela justifie, si vous voulez, non seulement l'activité de l'intellectuel qui essaye de répondre par son propre logos, par son propre verbe, excusez le grec, qui essaye de répondre par son propre verbe au verbe qu'il sent traversant la réalité, traversant le monde, traversant les choses, et qui essaye donc de bâtir autant qu'il le peut une sorte de réponse à ce discours rationnel et sensé qui nous est adressé à travers la création.
Alors cet approfondissement, cette réponse que vous frayez au fil de vos textes, de vos livres, j'y vois un écho dans l'ouvrage que vous avez publié en 2005, « La loi de Dieu, histoire philosophique d'une alliance ». La loi divine, c'était assez courageux d'aborder cette question, parce que c'est une idée particulièrement difficile à entendre aujourd'hui, non ?
C'est une idée difficile, mais d'abord je voudrais peut-être revenir. Vous avez eu raison de sortir, si je puis dire, de mon dernier bouquin. Et j'ai été fort touché que ce prix de littérature me soit attribué non seulement pour mon dernier bouquin, mais selon la mention rituelle, mais pas toujours donné par les gens qui, par le jury qui donne le prix, pour l'ensemble de son œuvre. Bon. Oui. Alors effectivement, je commence à approcher, j'y suis déjà à l'âge des bilans, puisque j'aurai 80 ans dans 4 ans, si Dieu me prête vie, bien entendu. Et donc, je suis heureux de pouvoir trouver une sorte de fil conducteur à travers mon œuvre. Et cette notion de loi divine, ben, vous avez tout à fait raison de la signaler, puisque le livre dans lequel elle figure est le second volet d'un triptyque qui a commencé avec la sagesse du monde et qui s'est achevé avec le règne de l'homme. Enfin, ce sont les titres de bouquins, n'est-ce pas ? C'est pas la réalité. Alors, cette notion de loi divine, effectivement, est mal reçue dans la mesure où on a quand même quelque part hérité probablement de nos souvenirs de nurserie. Là, l'ami Zygmunt pourrait nous aider à nous éclairer là-dessus. Nous avons tous, dans quelque part, comme diraient justement les disciples du dit Freud, nos amis les psys, nous avons quelque part la représentation d'une sorte de divinité fulminant des commandements et qui ressemble plus d'ailleurs à Zeus, au Zeus grec, qu'au seigneur de la Bible. Nous avons cette divinité qui fulmine des commandements et qui n'est pas contente si on les transgresse et qui en revanche nous donne un sucre d'orge si nous y conformons. Or, ça n'est pas du tout la manière dont les 10 commandements, qui sont quand même la base du message biblique, figurent au chapitre 20 de l'Exode, mais ils apparaissent comme, si je puis dire, la monnaie d'une libération qui vient d'être acquise, puisque la scène dans laquelle les commandements sont donnés, c'est la sortie d'Égypte. Et la première parole des 10 commandements, c'est « Je suis le Seigneur », bon, ne prononce pas le nom de Dieu, son nom propre, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte, hein, de la maison des esclaves, hein, de l'ergastule, hein, si vous permettez d'employer ce terme illustré par Hérédia. » Bon. Les autres paroles, alors qui elles sont vraiment des commandements, sont finalement les conséquences de cette libération. Puisque tu as été libéré, tu ne vas pas faire ce que font les esclaves, à savoir mentir, voler, tuer, tromper ta femme, porter un faux témoignage, envier, regarder dans l'assiette de ton voisin avec un regard d'envie, etc. Cette loi, c'est une loi de liberté, c'est une loi qui consiste en un ensemble de garde-fous empêchant de retomber dans la servitude. C'est à ça que servent les commandements. C'est pas pour faire plaisir à une sorte de grand-père fouettard ou je ne sais quoi.
C'était déjà cette question, finalement, pardon, de l'articulation de la loi et d'un sens, on va dire, plus exigeant donné à la liberté aussi, pour vous.
Ben, effectivement, la liberté est une exigence. J'ai beaucoup médité sur un passage d'Aristote. Bon, voilà, on prend son bien là où on le peut, et il y en a beaucoup chez Aristote. Mais dans un livre où on ne s'attend pas tellement à trouver ça, c'est dans le livre Lambda de la métaphysique, lequel n'est pas un livre lambda, mais sa théologie d'une certaine manière, puisqu'il n'hésite pas à appeler le premier principe de l'univers, il dit le premier moteur, enfin celui qui donne le mouvement à tout ce qui est, il n'hésite pas à l'appeler Dieu dans ce chapitre. Et à la fin du chapitre 9, je crois, ou 8, je ne sais plus, tiens, voilà, bon, honte sur moi, il a cette comparaison pour expliquer pourquoi les choses se passent comme papier à musique dans les sphères célestes, hein, puisqu'il a cette vision du monde comme une sorte d'oignon au centre duquel se trouverait la Terre et autour de laquelle tournent les astres, dont le Soleil. Bon, ça, on ne savait pas avant Copernic et Galilée et toute la bande. Et alors toutes ces planètes se, ben, ne bougent pas. Enfin, si elles bougent, mais enfin, elles bougent selon des orbites parfaitement régulières et bon, on peut prévoir quand elles vont apparaître, etc. Bon. Et puis, en revanche, sur notre monde, dans le sublunaire, hein, l'adjectif est resté avec une notion péjorative en français, dans le, notre monde en dessous de la Lune, bah, c'est le foutoir, vous me passerez l'expression, enfin, tout va à volo. Bon. Et il explique que c'est un petit peu comme ça dans une maison bien organisée, dans une maison, enfin, au sens large du terme, hein, au sens où l'on parle de la maison du roi, c'est-à-dire toute une communauté. Les hommes libres, finalement, peuvent beaucoup moins faire ce qu'ils veulent, ou plus exactement ce qu'ils croient vouloir, que les esclaves. Parce qu'une fois que le fouet du garde Chiourme s'est éloigné, une fois que le maître a le dos tourné, eh bien, bon, bah, les esclaves peuvent se donner du bon temps. Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi et faire, comme on dit, faire ce qu'ils veulent. En revanche, les hommes libres, donc les nobles, si vous voulez, bah, sont tenus par un code d'honneur. Alors, s'ils sont japonais, ils appellent ça le Bushido. S'ils sont anglais, ils ne l'appellent pas. Mais le code est d'autant plus rigoureux qu'il reste implicite. Et puis bon, ben, vous pouvez appeler ça le punto d'honneur si vous êtes espagnol. Voilà, il y a ce que font les gens comme il faut, ou plutôt ce qu'ils s'interdisent de faire. Donc en un certain sens, les hommes libres, à la différence des esclaves, sont beaucoup moins, entre guillemets, libres que ne le sont les esclaves. Et il serait intéressant de faire remarquer, évidemment non sans un sourire ironique, que la conception que nous avons la plupart du temps de la liberté est une conception essentiellement servile, à savoir, comme on dit, faire ce que je veux.
Nous faisons bien une... entendu que... pardon. Oui, pardon. Juste une petite pause musicale.
Mille pardons.
Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, toi, si t'étais le bon Dieu, tu allumerais des bars pour les gueux.
Nous avons entendu un extrait de cette chanson de Jacques Brel, Le Bon Dieu, une chanson qui, on pourrait dire, joue un petit peu avec un certain préjugé ou un poncif sur, sur Dieu et sur, sur son action dans le monde. Ce Dieu, vous l'avez, cette idée de Dieu, vous l'avez beaucoup interrogé, vous, Rémy Brague, en particulier en 2008, dans un bel ouvrage du Dieu des chrétiens. Ce Dieu des chrétiens, quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi cette question posée par un philosophe à ce stade-là de votre recherche?
Écoutez, je dois bien avouer que je ne connaissais pas cette chanson de Jacques Brel, qui est toujours très remarquable, enfin, comme il l'a été depuis le début jusqu'à la fin. Et cette protase, n'est-ce pas, si tu étais le bon Dieu, me semble tout à fait intéressante, parce que d'une certaine manière, je ne dirais pas que d'une certaine manière d'où le sommes, mais le bon Dieu, précisément parce qu'il est bon, parce qu'il mérite cet adjectif que nous utilisons comme ça, sans trop réfléchir, nous délègue, et délègue d'ailleurs pas seulement à l'espèce humaine qui serait une sorte de chouchou, mais il délègue à toute créature, eh bien, de quoi choisir, de quoi agir, de quoi atteindre son bien. C'est un petit peu ça mon idée dans le livre sur la Providence, c'est que Dieu délègue. C'est un Dieu qui donne. Il n'a rien à demander d'ailleurs, puisqu'on ne voit pas trop ce qu'il pourrait nous demander, puisqu'il nous a déjà tout donné. Donc il délègue et puis il nous laisse agir et il n'intervient que là où, où nous sommes incapables d'atteindre notre propre bien. Mais partout où la créature, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pierre, plante, animal ou homme, tant que la créature est capable de se débrouiller, si je puis dire, de vouloir son bien et de l'atteindre par ses propres moyens, il la laisse. Il la laisse non pas parce qu'il lui refuserait quoi que ce soit, mais parce qu'il a déjà, j'ai déjà donné, pourrait dire Dieu dans le langage du café-théâtre. Donc le Dieu des chrétiens, le titre complet du bouquin, c'est « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres ». Je me suis amusé à donner un titre un petit peu rigolo, parce que je voulais éviter qu'on prenne ça pour un docte traité de théologie. J'ai voulu justement montrer que le Dieu des chrétiens a des caractéristiques, le Dieu tel que les chrétiens essayent de se le représenter a des caractéristiques qui le distinguent. Je ne sais pas, mettons du Dieu des philosophes, du Dieu d'Aristote que je viens de nommer, et puis du Dieu d'autres religions, du Dieu de l'islam, alors du Dieu du bouddhisme, le bouddhisme, mais pas tellement de Dieu. Les différents courants de pensée, pensée religieuse ou pas religieuse, ont tous, ces courants, une certaine conception vaguement de la transcendance, du principe, du numéro un de l'univers, si je puis dire, pour employer un vocabulaire autrefois employé pour les pays de l'Est. Il ne faut pas plaquer sur la foi chrétienne des représentations du divin qui ne lui conviennent pas, qui sont inadéquates. Alors par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure cette espèce de grand-père fouettard qui aime ceux qui lui obéissent et qui a de la haine pour les rebelles. Ça ne ressemble pas tellement à ce Dieu qui accepte d'une certaine manière de mourir pour que l'homme soit libéré. Et avec l'homme, l'ensemble de la créature que l'homme a entraînée dans la catastrophe.
Alors, j'ai une question pour avancer dans votre œuvre. En 2011, vous avez publié un ouvrage, Les ancres dans le ciel, une infrastructure métaphysique. Alors, ce terme d'infrastructure, qui a une tonalité un peu marxiste, est étonnant pour parler de la métaphysique, mais justement. Et l'ouvrage me paraît absolument essentiel parce qu'on est dans une époque où on a proclamé la fin de la métaphysique, on dit qu'on n'a plus besoin de la métaphysique. Et vous dites très clairement, c'est faux. On a encore besoin de métaphysique, alors même qu'elle est décriée par beaucoup de personnes et de courants. Pourquoi avons-nous besoin de la métaphysique ?
C'est très simple, mais ce qui est simple n'est pas nécessairement facile. Nous avons besoin de quelque chose comme de la métaphysique pour répondre à la question que vous avez posé au tout début de cet entretien, à savoir la question de la légitimité de l'existence humaine. Vous allez me dire, la question de la légitimité ne se pose pas, nous sommes là de toute façon, nous devons nous débrouiller. La question vient de toute façon trop tard. Oui, elle vient trop tard pour nous. Mais elle ne vient pas trop tard pour, disons, l'espèce humaine en général, laquelle, étant également une espèce animale, ne peut subsister que si elle se reproduit. Ferai valoir mes droits à la retraite définitive dans quelques années. Vous, j'espère, dans un petit peu plus de temps. Mes enfants, eux aussi... devront prendre congé, tirer leurs références, comme on dit. Et l'espèce humaine ne peut continuer que si, tout simplement, nous avons des enfants. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom, même s'il est vulgaire et subalterne, comme aurait dit le général. Eh bien, avons-nous le droit de faire ça? Est-ce que nous avons le droit? Puisque donner la vie, avoir des enfants, c'est un acte profondément antidémocratique. Nous ne pouvons pas leur demander leur avis. Donc, pour que ce soit légitime, il faut que l'existence soit un bien tout court. Et ce, malgré tous les inconvénients possibles.
Alors justement, en 2013, oui. Puisque vous évoquez cette question de la légitimité, en 2013, vous avez publié « Le propre de l'homme », ce livre, où vous évoquez, vous interrogez de manière très précise cette légitimité qui est menacée. Où se situe la menace pour vous, exactement?
Alors déjà, je vous remercie d'avoir mentionné ce livre et son titre qui a le léger inconvénient de ne pas du tout correspondre au contenu. Hein, le propre de l'homme, j'en parle absolument pas dans mon bouquin. En fait, j'aurais souhaité le nommer, enfin l'intituler « La légitimité de l'humain ». Mais mon éditrice, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très bien, m'a dit « Bon, vous savez, oui, ça va, ça sonne cours de philo, il vaut mieux un autre titre. » Alors, j'ai cédé par faiblesse, bien sûr, j'ai accepté ce titre qui est très bien, mais qui ne correspond pas au contenu. Bon. Alors, le problème de la légitimité de l'humain se pose justement à partir du moment où l'existence même de l'humanité dépend de plus en plus de la liberté humaine. Nous avons de plus en plus, avec le progrès technologique, avec un certain progrès politique également, avec un progrès moral, moins évident dans la pratique, mais dans la théorie très, très clair, je crois. Il y a de plus en plus de choses que nous disons désapprouvées, même si dans la pratique nous faisons souvent des accommodements avec le ciel ou avec la morale. Eh bien, de plus en plus, l'existence humaine, non seulement ce que nous sommes, mais le fait même que nous existons, dépend de la liberté. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien, c'est je crois, vraiment un des rares progrès réels et incontestables que l'on puisse mettre à notre crédit.
Existence et liberté, Rémy Brague, c'est humanité et liberté, c'est cette question qui est au centre de votre dernier ouvrage, À chacun ses besoins, petit traité d'économie divine. Nous poursuivons cet entretien dans une deuxième émission. Merci Rémy Brague.
Mais de rien, c'est moi qui vous remercie.